Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un fantôme, on est ici pour avancer.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi 4 mars 2021. Et ce soir avec Laurent, nous allons vous parler d'un certain nombre de choses. On commentera à notre manière cette affaire Sarkozy, nous parlerons de loi sécurité globale avec Laurent. Nous irons voir du côté de Ferrero et Casino ce qui se passe et ce qui se dit. Nous partirons en Suisse pour voir s'il y a un dieu ou un maître, on ne sait jamais. Nous parlons un petit peu après d'économie, et puis nous parlons de Covid, santé, idéologie, peut-être bien de pognon aussi et de dissolution. Enfin, tout ça pour commencer donc par un petit commentaire sur Monsieur Sarkozy. Nicolas de son prénom, ancien président de la République française, condamné lundi, quand même à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour cette fameuse affaire de corruption et de trafic d'influence. Les écoutes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la réaction de Bruno Retailleau, qu'il aime, il l'aime, son Sarko, quand même. Bruno, il trouve que tout ça, c'est pas juste. Je m'en suis même posé une petite question en lisant France Info, qui rapporte les propos de Monsieur Retailleau, et on a l'impression qu'il nous parle de justice de classe. D'un seul coup, ça va pas. Pourquoi? Alors, il y a un problème de base, c'est que pour lui, les magistrats devraient pas se syndiquer, il devrait y avoir une politique de neutralité, parce que tout ça est évidemment un procès politique contre Monsieur Sarkozy, et donc cette justice de classe, elle est pas bien, il faudrait la changer, enfin voilà, ça m'a fait marrer quand même cette réaction, pour soutenir à tout prix son ami Nicolas. Alors on va parler avec toi, Laurent, maintenant, de loi sécurité globale. Il paraît que ça avance, mais pas dans le bon sens.
Oui, on va parler de ce qui s'est passé donc à la commission des lois du Sénat. C'était hier matin, puisqu'ils ont adopté la proposition donc du Sénat sur cette fameuse proposition de loi de sécurité globale, une énième et nouvelle loi de sécurité, une nouvelle loi sécuritaire. Dans les lois modernes, on rappelle que la première de notre époque moderne de loi sécuritaire, elle est née sous Lionel Jospin, s'il devait s'appeler la loi de sécurité intérieure. Un truc comme ça. Et à chaque fois, on va plus loin dans les mesures liberticides, bien évidemment. Alors, il y a eu quelques modifications apportées au texte. On imagine très bien que les deux rapporteurs, M. Hervé et M. Daubresse, vont se glorifier en disant « on a fait évoluer tout ça dans le bon sens ». En fait, pas du tout, c'est kiff-kiff, bourricot, comme on dit, voilà, quelques réécritures inutiles. Mais je vais aller un peu plus dans le détail. Alors, en petit résumé, je rappelle comment ça s'est déroulé, déjà, cette petite commission des lois du Sénat. Alors, c'était porte fermée, pas de retransmission vidéo, d'une rapidité incroyable. Début 8h30, 11h30, tout était plié. 3 heures seulement pour étudier moult amendements, moult parties de la loi. Ça va très vite. Vraisemblablement, ils étaient tous d'accord. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, que dès qu'il y a du débat, forcément, ça fait perdre du temps. Donc voilà. Alors, ils ont réécrit l'article 24, le fameux article 24. Ils ont fait plein de trucs pourris. Alors, je vais détailler. Alors, l'idée, hein, c'était de neutraliser cet article 24 qui, dans sa version initiale, aurait empêché de documenter les violences policières. Vous l'avez entendu, ce truc pourri. Aujourd'hui, cet article se divise en deux infractions qui a été réécrit et validé par le Sénat. La première sanctionne, je cite, « la provocation dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique à l'identification d'un policier ou d'un militaire ». Une deuxième infraction sanctionne, elle, le fait de réaliser un traitement de données personnelles concernant des fonctionnaires sans respecter le RGPD et la loi informatique et liberté. RGPD, la loi générale des protections des données. Voilà, ça c'est la réécriture, c'est ultra confus, très redondant avec le droit existant. Bon, on espérait tous qu'ils le virent tout simplement cet article. Non, ils ont préféré le réécrire dans une forme confuse. Ben voilà, pour laisser place, j'imagine, à soit une remodification au retour au Parlement, ben soit au fait que finalement, on ne sera pas si loin de la proposition de l'article d'origine. Je rappelle que le Code de sécurité intérieure, on va continuer dans les amendements et dans les parties de la loi, le Code de sécurité intérieure limite actuellement le visionnage des images de vidéosurveillance aux seuls agents de gendarmerie et de police nationale. Le Sénat, hier, a donc validé les articles 20, 20 bis A, 20 R de cette loi de sécurité globale qui étendrait donc cet accès alors, aux agents de la police municipale et de la ville de Paris, des communes, des communautés de communes et groupements similaires, ainsi que des services de sécurité de la SNCF et de la RATP. Alors, ces services de sécurité de la SNCF et de la RATP sont des milices patronales. Hein. Si vous ne les avez jamais vus à l'œuvre, vous savez pas de quoi je parle. Si vous les avez vus, vous savez. Les sénateurs donc se sont contentés de quelques modifications de façade, prétendant suivre l'avis d'une CNIL quasi inexistante, peu écoutée et surtout qui a quasiment aucun pouvoir d'influence. Donc ça ne changera rien à l'extension injustifiable de ces personnes qui vont pouvoir avoir accès aux images de vidéosurveillance. Alors, on va dire un truc positif. Une maigre avancée sur le problème de la vidéosurveillance. La commission a supprimé l'article 20 bis. Celui-ci prévoyait de faciliter la retransmission en direct des images filmées par les caméras postées dans les halls d'immeubles. Alors, c'est vrai que cette disposition était clairement inconstitutionnelle. Donc les rapporteurs ne pouvaient que l'enlever, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de revenir dans la suite avec les parlementaires. Il y a ce qu'on appelle la commission mixte paritaire qui va, avec l'Assemblée nationale, faire la version définitive de cette loi liberticide. S'agissant des drones, puisqu'il est aussi question des drones, toutes les formes d'atteinte aux libertés de surveillance sont présentes dans cette loi, bien évidemment. S'agissant des drones, les rapporteurs ont appliqué une technique assez répandue, traditionnelle, on va dire, quand il y a des négociations ou qu'il y a des réactions du grand public ou du public sur des lois liberticides. Ils ont fait semblant, ils ont tout réécrit avec des mots différents, mais ça a le même sens. Donc ça, ils sont très très forts. Donc l'amendement adopté sur les drones est plus dense, a priori. Les différences avec le test initial sont au final quasi nulles. La police et la gendarmerie pourront tout aussi facilement déployer leurs drones pour maintenir leur politique de surveillance massive des populations et de repression des libertés. La seule avancée obtenue est finalement assez prévisible, l'interdiction explicite de l'audio-surveillance et de la reconnaissance faciale par drone. En fait, c'était prévisible. Pourquoi ? Parce que, ce qu'ont voulu dire les rapporteurs, je vais les citer d'ailleurs, ils ont dit « Réaffirmer à ce stade la prohibition des techniques qui ne sont pas expressément autorisées par le législateur, ça n'aurait aucun sens. » Effectivement, la captation des sons, la reconnaissance faciale, l'interconnexion automatisée de données notamment, c'est pas autorisé actuellement dans les lois. Il y a eu des tentatives d'implantation dans certaines villes, ça a été rétoqué parce que c'est pas autorisé dans la loi. Donc, si ça avait pas été réécrit, autorisé, les drones n'auraient pas eu le droit de le faire, donc ils l'ont enlevé naturellement. Un jour, ça sera écrit dans la loi, et à partir de ça, des systèmes de micro, de drones pourront malheureusement, sûrement, capter des sons et faire de la reconnaissance faciale. Pour l'instant, ça se fait pas. Donc là, c'est pas un vrai recul parce qu'on était sûr que ça passe pas. Alors la victoire symbolique obtenue sur les drones, cette victoire symbolique obtenue sur les drones est à relativiser. Si l'on pouvait redouter le déploiement de la reconnaissance faciale à cause de ce que j'ai dit, que c'était pas présent dans la loi traditionnelle sur la surveillance des populations, ça passe pas sur les drones. Par contre, ça s'immisce dans une autre partie de la loi, celle sur les caméras piétons, qui seront bientôt largement déployées en France. Et là, par contre, les images seront retransmises en temps réel au centre de contrôle, en application de cette belle loi de sécurité globale. Et là, ça ira sûrement beaucoup plus loin dans le contrôle et la surveillance des populations. Donc voilà, bref, ils ont interdit l'enregistrement et la reconnaissance faciale pour les drones. Par contre, pour les caméras piétons, rien de tout ça. Donc voilà, bien sûr, ils ont encore utilisé le prétendu avis de la CNIL en référence pour écrire leur article, mais qui ne change finalement rien. Prochaine étape, la discussion en séance publique. Donc ça aura lieu le 16, les 17 et 18 mars prochains. Voilà, et puis après il y aura le retour, donc ça c'est toujours avec le Sénat, et après il y aura le retour à l'Assemblée. Il faut continuer de mettre la pression, il y a des groupes militants qui mettent la pression de défense des droits publics, des libertés individuelles et tout ça, mais l'espoir est quand même faible qu'on arrive à faire reculer cette nouvelle loi liberticide, puisque malheureusement à chaque fois les mesures répressives et liberticides se mettent en place malgré les mobilisations citoyennes et associatives et militantes. Bon, il faut quand même continuer d'informer et d'en parler, mais l'espoir reste faible.
Alors, on va parler Khmer Vert maintenant, si vous voulez bien.
De moi ? Ah, je suis pas le seul. Oui.
Non, je crois que, heureusement, il y a beaucoup de Khmer Vert. Ces fameux Khmer Vert qui embêtent bien des entreprises et des multinationales. Alors, ce titre du Figaro permet de synthétiser une certaine presse. Visé par un recours de France Nature Environnement, Ferrero abandonne un projet prévoyant 110 emplois en Normandie. Donc là, on aura bien compris qu'on nous met en jeu les fameux 110 emplois.
Les écolos tuent l'emploi, quoi. C'est ça.
Je voudrais pas aller jusqu'à dire que le Figaro sous-entendrait certaines choses, que peut-être. En tout cas, il faut quand même se rendre compte que ce fameux projet que Ferrero abandonne, c'était 30 millions d'euros d'investissement, ces fameux 110 emplois, 36 000 mètres carrés pour un entrepôt qui permettait de mettre 45 000 palettes. Vous voyez l'enjeu. Alors, il faut dire que Ferrero avait décidé de s'installer sur ce site de Criquebeuf-sur-Seine et voulait faire un symbole de ce site, un symbole de modernité de ses entrepôts, de ses usines, et puis fêter les 60 ans de présence en France. C'était donc toute une affaire, ce site de Criquebeuf-sur-Seine. Alors, on sait que donc, c'est le 25 février dernier que Ferrero a décidé donc, d'abandonner ce projet, de mettre fin au contentieux, et d'abandonner donc ce site. Alors, il y a d'abord effectivement France Nature Environnement, comme le soulignait tout de suite le Figaro. qui s'en est pris à la société d'exploitation Gemfi. Alors là, c'était Gemfi qui allait construire l'entrepôt pour le vendre à la Caisse d'épargne de Normandie, qui allait ensuite l'allouer à Ferrero. Vous avez sorti le tableau blanc encore une fois. C'est bon, vous avez tout suivi. Alors, ce qui plaisait pas et ce qui plaît toujours pas à France Nature Environnement, c'est cette dérogation accordée à Gemfi par la préfecture de l'Eure. Alors celle-ci, elle permettait l'exploitation de ce site, mais le problème, c'est que sur ce site, France Nature Environnement fait remarquer qu'il y a 32 espèces d'oiseaux protégées, dont une en particulier, le Nycmède criard. Il paraît que c'est un terrain caillouteux et que ça lui va très bien à ce machin qui crie. La préfecture, c'est un arrêté du 4 mai 2020, a expliqué que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc c'était pour la vitalité de l'économie, les fameux 110 emplois, nous y revenons, et donc une vie économique grâce à ces emplois, du travail, du mouvement, donc du pognon. Le problème, c'est que tout ça ne répond pas bien favorablement aux demandes de France Nature Environnement, qui maintient son combat contre Ferrero, et explique qu'on ne voit pas bien en quoi il y a là une dérogation qui permet un projet particulier. On ne voit pas où il y a un impératif d'intérêt public majeur pour France Nature Environnement.
Pour c'est construire un entrepôt, quoi.
C'est un lieu privé, ouais. Quoi. Hein, donc on ne voit pas bien pourquoi, d'un seul coup, il y aurait une dérogation spécifique pour un entrepôt de Ferrero, même si ça fait 60 ans que Ferrero est en France. Alors la LPO, elle, de son côté, avait aussi attaqué Ferrero. Mais
la Ligue de protection des oiseaux.
Tout à fait, tout à fait, qui commence à être bien connue maintenant. C'est quand même plusieurs décennies que la LPO se bat un peu de partout pour les petits oiseaux et les gros. Donc là, il y a une concertation avec Ferrero, la Ligue de protection des oiseaux avait demandé davantage d'implication pour la construction du site et pour la préservation des espèces. La LPO estime que de ce côté, elle a été entendue et donc a lâché l'affaire, ce qui n'est pas le cas de France Nature Environnement, qui a amené donc Ferrero à abandonner ce projet face à l'énervement, parce qu'en plus, les élus de Normandie Écologie ELV s'étaient mis aussi dans l'affaire, soulevant des failles dans le projet, critiquant cette dérogation, alors que le Conseil national de protection de la nature avait émis un avis défavorable. Donc Ferrero a dit « je lâche l'affaire ». Mais, rien n'est perdu pour Ferrero. Puisque si le cric bœuf sur scène, ça marche pas, Ferrero continue de chercher un lieu sur la métropole de Rouen. Et il paraît que là, les élus sur place tendent les bras, se jettent sur Ferrero, veulent absolument que ça se fasse, et il paraît que Ferrero serait donc maintenant en recherche de ce côté-là. Alors la ville de Rouen a un certain nombre de friches qui pourraient servir d'entrepôt donc à Ferrero. C'est pas bête, ça permet de réutiliser des espaces qui sont déjà construits.
Bah oui, les friches, les terrains sont déjà dévégétalisés, il n'y a pas de souci.
Donc c'est pareil, c'est pas une mauvaise idée.
Plus logique.
Hein, un peu plus intéressante. Donc on attend maintenant la suite de savoir comment tout ça va se passer. Il paraît que la décision serait prise avant l'été. Donc on a le temps de voir venir. Et moi je suis allée sur le site de Ferrero, dans la partie communiqué de presse actualité. Et donc le 22 janvier 2020, Ferrero a communiqué l'huile de palme Ferrero la plus durable de l'industrie selon WWF. Vous savez que WWF, ça coquine avec des multinationales de l'agroalimentaire, entre autres, mais pas que.
Ils ont pas mal de critiques.
Il y a pas mal de critiques, et en particulier ce genre de choses qui permet, avec cette espèce de labellisation WWF, de faire dire à Ferrero que l'huile de palme, la sienne, elle est vachement bien, elle est vachement mieux qu'avant, et que donc il n'y a pas de problème à en avoir dans les pâtes à tartiner et les gâteaux. Donc voilà, c'est marrant parce que ensuite, Ferrero se lance dans une grande transparence sur son huile de palme, puisque sur le site on trouve la liste complète des moulins d'où provient son huile de palme. Très sincèrement, on n'est pas très nombreux et très nombreuses à aller faire cette démarche, et en plus de ça, on peut toujours un peu critiquer ce genre de transparence et ce greenwashing qui est amené par l'industrie agroalimentaire en particulier. Et puis un autre groupe qui subit les Khmer verts, c'est Casino, qui est la plus grande chaîne de supermarchés au Brésil et en Colombie, avec la marque Grupo Pao, je ne vais pas le dire, GPA, voilà. Et puis Grupo Éxito, donc c'est un gros secteur pour les activités du groupe Casino. Et là, il y a une coalition internationale des ONG françaises et du continent américain qui se sont réunies. Il y a aussi des représentants des peuples autochtones d'Amazonie brésilienne et colombienne. Et ces 11 organisations françaises et internationales ont assigné le 3 mars le groupe Casino devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, puisque c'est là où se trouve le groupe. Le siège, je vous rappelle, hein, c'est historique. Alors, ce qui est reproché à la multinationale, c'est de vendre dans ses enseignes en Amérique du Sud des produits à base de viande bovine, d'élevage, qui sont installés au Brésil et en Colombie et qui participent à la déforestation et à l'accaparement des terres des peuples autochtones. Donc là, l'idée, c'est évidemment de sanctionner le groupe Casino, de lui faire changer ses pratiques. Alors, c'est un grand... truc hein, qui va se passer, puisque là, il n'y a pas de procès avant un an et demi. Hein, donc, on va attendre, hein, c'est un dépôt déjà, on va voir ce qui se passe par la suite. Mais là, c'est quand même de médiatiser cette affaire du groupe Casino, pour que nous, tous et toutes, on soit un peu plus responsables aussi quand on va faire nos achats dans ce genre d'endroit, qu'on puisse aussi amener des critiques individuelles ou grâce à d'autres collectifs, hein, tout simplement. Là, ce qui a amené ces 11 organisations à se mettre sur le territoire français, c'est pour le droit français, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance adoptée en mars 2017, comme quoi des fois des lois servent à ce genre de lutte, et c'est plutôt bien. Donc la loi impose aux entreprises basées en France et employant plus de 5000 salariés de prendre des mesures adaptées et effectives pour prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement, tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Donc là, il y a une responsabilité qui est engagée pour le groupe Casino, et c'est sur cette question que va s'engager cette bataille judiciaire. Pour l'instant, le groupe Casino continue à se défendre en disant que, sur place, finalement, le groupe ferait très attention au peuple autochtone, mais très attention à l'environnement, je synthétise leur communiqué de presse. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de désastres en Amazonie, en particulier au Brésil, mais pas seulement, et comme vous vous en doutez, comme je viens de le dire aussi sur la Colombie. On a une déforestation extrêmement importante. Depuis plusieurs mois, on commence à le savoir, à le dire, que 2020, c'est une augmentation de la déforestation, et tout ça est certainement dû hein, aux stratégies de Monsieur Bolsonaro, hein, qui a cassé toutes les lois qui pouvaient à minima protéger l'Amazonie. Donc il y a une déforestation qui continue. Je rappelle qu'il y a beaucoup de feux, tout ça pour détruire et créer de l'espace pour une agriculture industrielle. Donc c'est cette plainte, elle va aussi dans ce mouvement-là, c'est qu'il y a une aggravation de la situation.
Et en ce moment, l'extrême droite ou la droite, elle est tellement anti-écolo qu'elle nous fait aimer les écolos bisounours qui sont autour de nous. Je ne sais pas si tu as vu la une de Valeurs Actuelles, où il y a le maire de Lyon dessus. Alors moi, je ne suis pas super fan de ce maire écolo bisounours là, mais il est tellement attaqué par cette extrême droite qui défend le droit de polluer, le droit de tuer les gens en émettant des gaz toxiques et cancérigènes, etc., que d'un seul coup, il devient sympathique, forcément, vu qu'il est attaqué par les fachos. Je pense que c'est contre-productif ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte. Bon, de toute façon, s'ils étaient intelligents, ils ne seraient pas d'extrême droite.
Mais je pense qu'en fait, ils se basent que sur cette frange qui pense que donner plus de place au vélo pour moins de voitures, c'est un problème de vie. C'est un problème de civilisation même, je pense, à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils aillent chercher beaucoup de gens hors de leur sphère à Valeurs Actuelles, comme chez les autres. Mais en tout cas, ils cherchent à renforcer ces positions... on se croirait avec la guerre froide, vous savez, on parlait des communistes un peu comme ça à une époque, ça fait un peu penser à ça, quoi. Ouais.
Petite rubrique, ni deux ni maître, autour donc, des pratiques irrationnelles. On va aller en Suisse, pour une fois. On n'y va pas souvent en Suisse, pourtant c'est pas très loin d'ici. On va aller voir le député socialiste au Grand Conseil du canton de Vaud. Alors c'est dans la Suisse qui parle allemand, je te le dis. J'aurai quelques mots allemands dedans. Donc il s'appelle Julien Eggenberger. Donc il a déposé le 2 mars, donc avant-hier, la motion qui s'appelle « Les thérapies de conversion doivent être interdites ». Donc lui, dans son territoire, il souhaite bannir les approches psychothérapeutiques, médicales ou religieuses visant à guérir de l'homosexualité. C'est ça, hein, les thérapies de conversion. c'est pas de la guérison parce que c'est pas une maladie, mais on oblige par des méthodes souvent horribles les homosexuels à rejeter ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc le député a recueilli déjà une quarantaine de signatures dans les rangs de l'hémicycle régional là, du canton de Vaud. Donc il va y avoir une discussion avant un vote. Alors en préambule du texte, Julien Eggenberger mentionne, je cite, il a sorti des trucs qu'il a trouvés chez les assos ou les groupuscules religieux ou les églises qui valorisent ces thérapies de conversion. Juste, alors c'est un peu apocalyptique, mais c'est la réalité. Du genre, un homme homosexuel donc menacé de mort, pour qu'il épouse une femme et ait des enfants, donc c'est une des pratiques, une femme lesbienne à qui on fait subir des séances d'hypnose, et dans les séances d'hypnose, il y a plein de messages à caractère sexuel visant à habituer son corps à la pénétration masculine, quelques petits exemples hein, de ces traitements horribles. Il y a aussi d'autres traitements psychiques pour essayer de guérir la transidentité, hein, comme disent ces énergumènes. Des exorcismes visant à chasser le démon de l'homosexualité, on trouve aussi. Plein de choses comme ça, ça va jusqu'aux électrochocs, à l'excision de femmes lesbiennes hein, qui est proposée. Enfin, c'est apocalyptique. Donc, toutes ces pseudo-thérapies visent à restaurer une pseudo-identité qui serait conforme à la norme hétérosexuelle et cisgenre, celle qu'on a à la naissance et à quoi on ressemble quand on naît. Voilà, une vie normative correspondant à leur religion, à leur croyance, à leur débilité, dirais-je. Donc cet élu reconnaît que ça va être compliqué, qu'il faudra peut-être définir ce que c'est que cette... de manière précise, ce que sont ces thérapies de conversion, mais avec les différents exemples qu'il a pu montrer, qu'il a écrit en fait dans sa motion, on a déjà, ça cerne déjà pas mal les trucs qu'on peut croiser, hein, puis bon, il y a plein de documentaires maintenant, plein d'articles sur qui expliquent vraiment pas mal de techniques par ces groupes religieux contre les homosexuels. Alors on sait qu'il y a déjà pas mal de pays qui ont proscrit officiellement ces pratiques. La France l'a fait un peu timidement. L'Allemagne l'a récemment fait sur les mineurs, avec une nouvelle loi. D'ailleurs, il a constaté que les principales organisations allemandes qui pratiquaient ces théories de conversion sur les mineurs, donc c'est les parents souvent qui poussaient leurs enfants, qui obligeaient leurs enfants à aller voir ces groupuscules, et ben ils ont quitté l'Allemagne pour venir s'installer dans la Suisse, notamment dans la partie allemande de la Suisse. Donc c'est pour ça aussi qu'il fait ça, c'est qu'il a constaté l'arrivée de ces groupes porteurs de ces thérapies. Alors il cite des noms d'assos qui sont issus de l'Allemagne et qui viennent s'installer en Suisse depuis quelques mois, depuis moins d'un an que la loi allemande est passée. Donc lui, il se dit qu'il ne faut pas non plus que la Suisse devienne la terre d'asile de ces entités religieuses homophobes. Alors il y a eu pas mal d'affaires en fait dans le canton de Vaud. C'est pour ça qu'il peut porter aujourd'hui cette motion. En 2012, par exemple, il y a l'église évangéliste Lazare, qui est établie à Bussigny, qui avait proposé un stage de restauration d'identité, ça s'appelait comme ça, qui est organisé par une organisation française, qui avait entraîné pas mal de réactions des milieux LGBT. Il y a eu, alors, un truc drôle, ou pas, un homéopathe, on ne dira pas qu'il est médecin, parce que l'homéopathie, c'est pas la plus partie de la médecine, un homéopathe, il traitait l'homosexualité, lui, comme un syndrome pouvant être corrigé. Alors, ce qui est drôle, quelque part, c'est que la Fondation Suisse pour les médecines complémentaires, bon, pour les trucs qui ne sont pas de la médecine, les pseudo-sciences, là, il l'avait quand même suspendu, parce qu'il trouvait que c'était un peu... ça allait trop loin. Eux, ils sont pour les pseudo-sciences, mais pas quand c'est homophobe, ce qui était déjà un minimum. Mais voilà, alors je ne sais pas s'ils donnaient des petits comprimés avec de l'eau sucrée, avec un peu de lactose, en disant « attention, ça va te guérir de l'homosexualité ». Bon bref, c'était ridicule. Voilà, donc dans sa motion, le député socialiste cite le rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est pas mal utilisé maintenant, qui assimile les thérapies de conversion à des actes de torture, et qui appelle donc mondialement à leur interdiction. Alors il y a peu de pays, on va pas se leurrer, qui l'interdisent. Les pays où la religion est très très forte, Bah, c'est pas interdit, vous trouverez pas d'interdiction aux États-Unis d'Amérique, vous trouverez pas d'interdiction en Iran, voilà, je vais pas citer tous les pays où c'est pas interdit, parce qu'ils sont majoritaires, mais voilà, c'est un processus qui est en cours. On se rappelle que c'est un truc qui est très fort, notamment aux États-Unis d'Amérique, hein, dans certains États très religieux, où ces pratiques, elles sont existantes. Dans d'autres États, dans d'autres pays plus religieux, ça n'existait pas forcément avant ces thérapies de conversion. On condamnait et on attaquait plutôt l'homosexualité tout court. Donc il y a eu, c'est une sorte de tradition qui est venue peut-être de ces milieux évangéliques américains et qui a envahi un peu le monde. Et c'est pour ça que maintenant il faut se mettre à lutter, alors que peut-être qu'il y a 30 ans c'était moins percutant, enfin c'était moins répandu, à part dans certains coins du monde. Donc voilà, on lui souhaite bien du courage, alors a priori ça devrait passer, parce que ça, le canton de Vaud a l'air d'être un canton avec des progressistes. Voilà.
Alors, si tu as des soucis dans ton travail, si, je sais pas, peut-être que tu as un chef ou une chef qui te harcèle.
Qui ne me harcèle pas, il est juste incompétent.
Qui t'ennuie, avec qui tu es en lutte, peut-être, je vais te raconter l'histoire d'un PDG qui a bien des soucis lui aussi, et ça devrait te faire du bien de savoir que même les PDG, ils ont des gros, gros malheurs. Alors, on part chez Danone, où il y a un PDG qui s'appelle Emmanuel Faber, qui a des gros soucis, mais alors vraiment des gros soucis. Ça commence un peu à durer. Alors, il faut dire que face à lui, Emmanuel Faber, il a des fonds d'investissement qui demandent depuis plusieurs semaines son départ. C'est, oui, on veut le pousser vers la sortie. Alors le fonds Artisan Partners, qui est un fonds d'investissement des États-Unis d'Amérique, troisième actionnaire Danone, écrit « Nous incitons vivement le conseil à revoir sa position, puisque si le conseil d'administration a agi, il n'a pas agi en virant définitivement Emmanuel Faber. » Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, pour que vous remettiez les éléments dans le bon sens. En juin 2020, Emmanuel Faber décide de transformer Danone en un statut juridique d'entreprise à mission. C'est-à-dire qu'il veut faire évoluer son entreprise avec des objectifs sociaux et environnementaux. Et tout ça n'est pas simple, puisque nous sommes en mars 2021 et qu'a priori, sa décision, la main sur le cœur, pour faire évoluer son entreprise, ça n'a pas plu aux actionnaires, hein, en particulier ses fonds d'investissement, qui trouvent qu'avec cette situation de vouloir avoir des objectifs sociaux et environnementaux, il n'y a pas assez de pognon qui rentre. Donc là, il y a une crise de gouvernance assez importante à Danone, qui explique en fait que les actionnaires ne pensent pas, a priori, comme l'avait prévu Emmanuel Faber, c'est-à-dire qu'ils veulent leur pognon. Donc, il est un peu coincé, le Emmanuel Faber, parce que le conseil d'administration, effectivement, sous la pression des fonds d'investissement, a réduit les responsabilités d'Emmanuel Faber. Il se voit retirer la direction opérationnelle et va juste garder la présidence du groupe. Garde du travail, hein, quand même. Hein, quand même. Alors, il faut dire que le cours en bourse a chuté d'un quart en 2020, donc cette belle idée, là, ça marche pas trop. Alors, comme le rappelle le Monde, Emmanuel Faber, c'est pas un gentil, en vrai. D'accord. En interne, a priori, il est autoritaire, solitaire, il fait grincer des dents, selon le Monde. Il a une stratégie d'organisation pour la rentabilité qui est par pays et non plus par marque. L'idée, c'est de répondre aux attentes locales. Donc, en fait, il déstructure aussi les stratégies mises en place jusqu'à présent. Donc, ça rend des gens un peu quand même en attente, hein, sur ce qu'ils voulaient faire. Ça marche pas, ça part de l'argent. Et en plus de ça, il se fait tomber dessus par ses actionnaires. Donc voilà, rassurons-nous. Même ceux qui sont en haut de la pyramide, pendant que nous sommes en bas, ont aussi des soucis dans le travail. Rendez-vous compte. Et le pire, c'est que c'est plus compliqué pour eux pour avoir un syndicat.
On va pas les plaindre non plus, parce que d'habitude, c'est eux qui nous embêtent. C'est à moi. Alors, on va faire deux petites infos autour de la santé et du Covid. Alors, on n'a pas beaucoup parlé du Covid dans ce Canu Info, parce que comme on n'entend que ça partout, autant faire de l'information autre. Mais là, deux trucs que j'ai trouvé qui m'ont un peu énervé. J'ai appelé ça idéologie contre la... Non, j'ai appelé ça comment ? Oui, Covid, santé et idéologie. Alors la première, elle nous vient de la France. Alors c'est à travers le ministère français des Affaires étrangères et son ministre, Jean-Yves Le Drian, qui ont critiqué le projet d'alliance prévu du Danemark et de l'Autriche avec le méchant Israël en matière de vaccins anti-Covid, estimant que le cadre européen, d'après le ministère des Affaires étrangères, restait le plus approprié pour garantir la solidarité au sein de l'Union européenne. Ainsi, il dit, je cite, lui ou elle, parce que c'est la porte-parole qui s'exprime, « Notre conviction reste de façon très claire que la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de vaccination doit continuer de reposer sur le cadre européen. » Tout ça, voilà ce qu'a dit donc la porte-parole. Il continue, elle continue. « C'est en effet lui qui garantit notre efficacité collective et la solidarité entre États membres, plus que jamais indispensable. » Alors là, on se dit de quoi ils parlent, pourquoi ils s'engueulent, qu'est-ce qui se passe. Ils défendent l'efficacité collective française de la vaccination. On se dit, ils se foutent de notre gueule. Personne n'est vacciné en France, on est moins de 4% de vaccinés, on est un des pires pays au monde. Qu'est-ce que vont faire le Danemark et l'Autriche qui ne plaît pas à la France avec Israël? Alors en fait, dans les faits, le chancelier autrichien, il s'appelle Sebastian Kurz, et la première ministre danoise Mette Frederiksen ont rencontré aujourd'hui en Israël le premier ministre encore là, hein, avant les prochaines élections. Vous savez, en Israël, en ce moment, il y a des élections tous les 6 mois. Hein. Benjamin Netanyahou. Alors, le but, c'est de lancer un partenariat pour les vaccins dits de deuxième génération, portant à la fois sur la recherche et sur la production. Monsieur Kurz, par exemple, juge que l'Agence européenne des médicaments est trop lente à approuver les nouveaux vaccins, notamment les vaccins de deuxième génération, et il estime que c'est plus possible, on n'avance pas assez vite. Alors ces vaccins de deuxième génération, c'est les vaccins qu'on a actuellement qui sont reconnus, mais qui sont dans une nouvelle phase modifiée pour être efficaces avec les nouveaux variants. Et c'est vrai, on a appris que l'AstraZeneca, que le Moderna n'étaient pas forcément efficaces sur certains variants qui sont en train de s'implanter. Donc eux, ils se disent, il faut accélérer les choses, l'Europe ne va pas assez vite, et ben on y va. Alors, le gouvernement français réagit à travers son ministre et sa porte-parole, le ministre des Affaires étrangères, c'est juste ridicule, hein. La vaccination, elle est gérée par des incompétents, des pieds nickelés, qui font tout sauf la bonne politique, et ils se permettent de dire à l'Autriche ou au Danemark, que leurs initiatives ne sont pas les bonnes. Donc voilà, c'est juste pour dire que le ridicule ne tue point, et que finalement, si on veut des vaccins, il va peut-être falloir à un moment essayer de se bouger. Alors, autre chose, toujours en lien au Covid et en lien au vaccin, un truc que j'ai trouvé drôle, si ce n'était pas triste, c'est la semaine dernière, vendredi 26 février, les autorités américaines s'apprêtaient à approuver l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, là, celui qui est en une dose, et il y a eu une réaction de l'archidiocèse, ça s'appelle comme ça, l'archidiocèse de la Nouvelle-Orléans, qui a émis un avis critique sur le vaccin en disant qu'il était immoral. Alors là, je me suis dit, waouh, l'Église dit qu'un vaccin est immoral. Qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin? Peut-être a-t-il été développé par le Satan, Belzébuth ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Donc ce vaccin est autorisé depuis samedi, le 27 février, aux États-Unis. Il est donc moralement compromis, car il utilise une lignée de cellules fœtales, donc issues d'un embryon humain, dérivée d'un avortement. Oh, le mal absolu pour ces chrétiens intégristes. Donc voilà, alors... Cette décision, elle pourrait mettre l'archevêché, l'archidiocèse de la Nouvelle-Orléans dans une situation un peu délicate, puisqu'elle rentrerait en conflit direct avec le Vatican et le pape François, puisqu'en décembre dernier, le Vatican a qualifié officiellement de moralement acceptable l'utilisation de vaccins qui ont utilisé des lignées de cellules de fœtus issues d'avortements dans les processus de recherche et de production. Hein, comme quoi, tous les catholiques ne sont pas complètement réactionnaires. Là, c'est assez surprenant. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il y a certains lieux de culte aux États-Unis qui servent de centre de vaccination. Donc là, la prise de position de cette hiérarchie catholique de la Nouvelle-Orléans, elle peut avoir des conséquences directes en fait sur la vaccination, parce qu'ils vont peut-être pas vouloir vacciner. Et donc ça va, finalement, au final, on rappelle, tuer des gens quelque part ou en rendre malade. Donc c'est assez triste de voir ça. Bon, bref, les catho-intégristes de la Nouvelle-Orléans sont un peu coincés. Alors, dans les faits, je voudrais rappeler quand même que effectivement, au tout début, on récupère des cellules souches. Et les cellules souches, on en trouve un peu dans les placentas et on en y trouve dans les fœtus issus de l'avortement, puisque dans les premiers stades, les cellules souches, c'est les cellules avant que la cellule se différencie et deviennent une cellule du foie, une cellule du cerveau, c'est-à-dire un neurone, une cellule de la peau, etc. Au début, les cellules sont non différenciées, c'est ce qu'on appelle les cellules souches. Elles ont des potentiels très intéressants pour la recherche médicale. Et maintenant, on arrive quasiment à faire des cellules souches à partir de cellules non souches, donc on va arrêter d'utiliser peut-être ces cellules issues de ces avortements. Mais pour l'instant, c'était le seul moyen. Mais en fait, pour faire ces vaccins, pour les tester et pour peut-être pour la production de certains, on n'utilise plus directement les cellules souches. En fait, ces cellules souches, elles ont été récupérées un jour sur un machin issu de... c'est quelques cellules, hein, l'avortement, il faut imaginer, c'est quelques dizaines de milliers de cellules quand ils récupèrent. Pour qu'elles soient souches, il faut vraiment qu'il n'y ait pas eu de développement, que ce ne soit pas déjà devenu un truc qui ressemble à quelque chose. Hein. On est dans les premiers stades de développement de l'œuf, quelque part. Mais ils les ont clonés depuis, parce qu'ils ne vont pas attendre qu'il y ait des avortements pour récupérer ces cellules. Donc une fois qu'ils les ont, ils les clonent, ils les font se reproduire, ils les clonent, et ils utilisent ces cellules clones. Donc ce n'est pas issu directement d'un avortement. Donc c'est pour ça que le pape François a pu autoriser, sans être finalement contraire à sa doctrine, puis on rappelle, il est malheureusement encore plutôt contre le droit à l'avortement. Donc c'est juste assez ridicule, et ça démontre une méconnaissance de ces religieux. Alors c'est logique, la science est quelque chose de rationnel, les religieux sont par essence irrationnels, puisqu'ils adhèrent à une croyance. Mais ça démontre ça, leur méconnaissance du système et de l'intérêt de ces tissus fœtaux issus d'avortements qui ont eu un rôle très important ces 10 dernières années, qui vont en avoir moins maintenant parce qu'il y a des alternatives.
Nous allons passer à la rubrique conso de cette émission. Et je vous invite donc à faire vos tiroirs, coffres-forts, soulever les matelas, pour pouvoir participer à cette mise aux enchères de 611 Bincoin. Ça va se passer le 17 mars prochain. C'est la maison de vente Capengi Morange qui va mettre aux enchères sur le site de vente Interenchères ces Bitcoins. Alors ces Bitcoins, ils sont en fait issus d'une saisie de justice. C'est une affaire de cybercriminalité qui a fait récupérer ces 611 bitcoins.
Oui, c'est quand même beaucoup utilisé par la cybercriminalité quand même.
Et qui sont donc revendus aujourd'hui. Alors, vous me dites 611.
Oui, mais si, un bitcoin, ça vaut, c'est énorme.
Alors, j'ai le cours du jour.
T'as le cours du jour, vas-y.
Le cours du jour, 40 266 euros.
Un bitcoin.
Ah bah oui.
Pourquoi on n'en a pas acheté il y a 10 ans là.
C'est donc un peu tard. Donc si tu veux spéculer, toi qui m'écoutes,
c'est trop tard maintenant, il faut
et te dire que tu as un peu du pognon à mettre pour en acheter au moins un, je veux dire, je sais pas, tu peux participer, mais il faut donc spéculer et penser que le Bincoin va prendre encore de la valeur. Donc c'est une vente qui pourrait rapporter, selon le cours du jour, j'ai calculé, hein. Excusez-moi, je retrouve mon calcul, ça ferait 25 824 526 euros potentiellement.
Ils vont, et alors c'est un truc, le but c'est d'en faire quoi de cet argent? Si c'est pour le réinvestir dans le trafic des êtres humains par exemple, c'est pas top.
Non, bah du coup là ils veulent les vendre, récupérer des euros, des pépettes comme toi et moi avons dans notre portefeuille ou sur notre compte en banque. C'est l'agence de gestion de recouvrement des avoirs hein, qui a saisi et confisqué
donc, c'est un truc
tout
d'état.
Ça. C'est l'État, il y a le ministère de la Justice et du Budget, les ministères de la Justice et du Budget derrière qui sont tutelles hein, de cette fameuse agence. Donc là, c'est le principe de vente aux enchères de biens saisis par l'État. C'est pas nouveau, hein. Il y a des véhicules,
oui, il y a plein de choses.
L'immobilier, des fonds de commerce, il y a plein de choses. Mais là, c'est la première fois que ça se passe avec du bitcoin, de la crypto-monnaie. Donc c'est ça qui fait un petit peu causer. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours des frais. Hein. Il y a des frais à 14,28%, hein, quand même. Donc on pense que ça va être vendu un peu moins cher. En tout cas, les enchères, elles démarrent à 60% du cours, hein, au 17 mars. Donc, peut-être que si tu te dépêches tout de suite, tu vas pouvoir faire une offre, mais pas la deuxième, en tout cas. Il va y avoir 479 lots, puisque l'idée, ça va être non pas de vendre un bitcoin, mais de vendre 0,11, c'est de la crypto-monnaie. Si tu en vends pas un billet, hein, tu peux découper tout ça. Donc, il y a des petits lots comme ça qui va permettre aux petits gens comme toi de pouvoir dépenser des choses et de se munir d'un truc essentiel à ta vie. 0,11 peut-être bitcoin, écoute, tu pourras toujours t'inventer dans les parties que nous vivrons quand nous serons déconfinés. Et puis il y aura un gros lot à 20 bitcoins, alors là ça fait plus de 800 000 balles hein, d'un seul coup qu'il faut sortir. Mais voilà, c'est une première en France, je suis pas sûr que ça va nous concerner là pour beaucoup, à ceux et celles que nous sommes autour de cette radio ce soir.
Je poursuis avec une information que j'ai appelée « Dissolution entre plaisir et inefficacité ». Je vais revenir sur le décret paru hier, pris hier en Conseil des ministres, qui a prononcé la dissolution des petits fachos de génération identitaire basée, on rappelle quand même, à Lyon. Mais il ne concerne, on rappelle, que Génération Identitaire et pas les associations à travers lesquelles ces petits identitaires exploitent les locaux qu'ils ont, notamment dans le Vieux-Lyon. On rappelle l'histoire, hein, le bastion social, l'ancien GUD, en 2019, a été lui aussi dissous par le gouvernement. Là, c'est la dissolution de Génération Identitaire. Alors, il y a une grosse différence entre les deux dissolutions. Une différence importante et dont on va expliquer un petit peu les choses, celle du bastion social, à l'époque, donc groupuscule nationaliste d'extrême droite que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, ça visait le bastion social et tout ce qui tournait autour, les associations qui tournaient autour. Donc ces associations qui louaient des locaux sous différents prétextes des fois, comme le pavillon noir qui était Quai Pierre-Cise à Lyon, toujours à Lyon, hein, parfois en trompant les propriétaires, puisqu'ils avaient différents noms d'associations. À l'époque, la dissolution du bastion social avait donc supprimé tout ça, et tous les bastions sociaux, quelque part, il y en avait à Chambéry, à Aix-en-Provence, à Marseille, tout ça, ils ont tous disparu par la dissolution. Cette fois, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, du coup, le décret de dissolution de Génération Identitaire concerne que l'association Génération Identitaire. Rien d'autre, pas tout ce qu'il y a autour. Or, les identitaires lyonnais, c'est par le truchement de deux autres associations qui louent leurs locaux dans le Vieux-Lyon. Du coup, on se demande pourquoi, cette fois-ci, une demi-mesure, alors que la dernière fois, la mesure avait été plus complète. Vous me direz, venant de Darmanin qui trouve que Marine Le Pen est trop molle, on ne s'attendait pas non plus à une vraie mesure efficace, autre que symbolique. Alors on rappelle qu'à travers l'association, l'autre association d'identitaire, il y en a une qui s'appelle par exemple la Traboule, ils louent le local du même nom, ils en font un café. Il y a une autre association qu'ils ont qui s'appelle Top Sport Rhône, ils louent, ils ont la salle de boxe qu'ils appellent la Gogée. Donc, elles sont, alors par exemple, la Traboule et Génération Identitaire sont localisées au même endroit, dans le local de la montée du change, donc qui s'appelle la Traboule du Vieux-Lyon. Alors, du coup, cette dissolution pourrait permettre au mouvement de continuer. Alors, c'est pas sûr en fait, et c'est là où il y a du flou, c'est parce que l'État pourrait dire qu'ils se rendent coupables de maintien ou de reconstitution de ligues dissoutes, puisqu'ils vont continuer avec les assauts en cours et c'est les mêmes. Le truc, c'est que c'est pas clair, parce qu'il aurait fallu tout faire disparaître en même temps. Donc voilà, je rappelle, dans les autres assos, il y en a d'autres, il y en a une qui s'appelle le Mélor, qui existe aussi, les Petits Lyonnais, enfin ils ont pas mal d'assos qui organisent différentes choses, avec certaines fois des spécificités. On rappelle que les Petits Lyonnais, je crois que c'est ceux qui avaient organisé la montée au flambeau en hommage à la Vierge Marie le 8 décembre, celle qui avait été d'ailleurs interdite par le préfet une fois, et après le tribunal administratif de Lyon leur avait donné raison un an après. Ils ont pas mal de petits assauts, tous ces groupuscules nationalistes et d'extrême droite. Alors, si on revient sur le décret est relativement précis sur ce qu'il reproche aux identitaires. Donc, ils estiment qu'ils promeuvent une idéologie incitant à la haine, à la violence, à la discrimination des individus à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion. Ça, on le savait, hein. On rappelle que Génération Identitaire, un des premières actions qu'ils avaient faites, c'était d'occuper la construction de la mosquée de Poitiers en 2012, hein, avec pas mal de membres lyonnais, donc, puisque c'était eux qui étaient à l'origine du truc. Le décret aussi estime que l'association entretient un amalgame insidieux entre, d'une part, les musulmans et les immigrés, d'autre part, en les traitant de racailles, d'assassins, de terroristes. Bon, il faut un amalgame, on connaît très bien. Donc, il dénonce ça, le décret. Il évoque aussi, ce décret, les liens entre Génération Identitaire et les associations et autres organisations d'extrême droite radicale violente. Notamment les liens avec certains supporters lyonnais. Et alors, il détaille pas mal de trucs comme ça, mais on se dit, mais pourquoi vous détaillez tout ça dans le décret et vous interdisez que l'association Génération Identitaire? Bon, voilà. Il rappelle aussi dans le décret que Brenton Tarrant, celui qui a fait l'attentat meurtrier en Nouvelle-Zélande, était membre bienfaiteur de Génération Identitaire. Bon, voilà, on retrouve l'attitude ridicule, hein, de Darmanin, du gouvernement, avec des demi-actions sur l'extrême droite. De toute façon, on sait très bien, même si ça nous fait plaisir, que ça n'empêche pas de revenir après et de continuer leurs actions nauséabondes et néfastes. Mais voilà, je voulais juste un peu parler de cette incohérence de ce ministre, de toute façon, qui est très proche de leurs idées, quelque part.
Je vais vous parler maintenant d'une tribune, après celle du SYNDEAC, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles pour le spectacle vivant. Je vais vous parler de cette tribune de la Société des réalisateurs de films, qui s'appelle « Un jour sans fin ». Qu'est-ce qu'on attend exactement ? Tribune qui a été signée par à peu près 800 professionnels du cinéma. Alors évidemment, on pense aux réalisateurs et aux comédiens et comédiennes et réalisatrices. Mais il faut aussi penser aux producteurs, aux productrices, à tout ce qui va concerner la communication et l'administratif, aux attachés de presse, aux journalistes, aux accessoiristes, hein, par exemple, ou aux décorateurs, aux techniciens du cinéma.
Costumières,
enfin, voilà. Et puis aux exploitants... exploitantes et aux distributeurs et distributrices, c'est-à-dire finalement toute la filière du cinéma. Je vais vous lire 5 paragraphes sur les 6. Allez, on a le temps, c'est parti. Aujourd'hui, depuis de très longs mois, les 5913 écrans des 2046 cinémas de France sont maintenus fermés au nom d'un principe de précaution sanitaire, pourtant contredit par un avis du Conseil scientifique du 26 octobre et par l'étude du Comcor de l'Institut Pasteur du 10 décembre 2020. Aujourd'hui, nous pourrons donc encore et toujours faire la queue pour aller acheter des baskets ou une glace, nous entasser dans les supermarchés ou prendre le train même bondé, mais nous ne pourrons pas aller au cinéma ni au théâtre. Et cela malgré la mise en place d'un protocole sanitaire des plus stricts et des plus fiables dès le premier jour du confinement. Au gré des chiffres, des variants, des politiques d'image, d'annonces, de culpabilisation ou d'intimidation, nous avons le sentiment d'être éradiqués. Et alors quoi ? On reste fermé ? Un an ? Deux ans ? Pour toujours ? Monsieur le Président, nous voudrions préciser une chose que l'opinion publique ne sait pas, mais que, bien plus grave, vous ne semblez pas savoir non plus. Le cauchemar que vit l'industrie du cinéma, ses travailleurs et travailleuses, n'est pas tant celui de l'année passée, certes extrêmement difficile, mais bel et bien celui des 2, voire 3 années à venir. Chaque semaine de fermeture ajoute à la catastrophe en marche. C'est l'avenir d'une profession qui a hypothéqué à mesure que les films terminés s'empilent chaque semaine sur les étagères des distributeurs. C'est le tout plateforme qui s'installe dans les habitudes et dévalorise nos ambitions et nos droits. C'est une filière industrielle économique forte de 340 000 emplois qui coule. C'est un monde de débats et d'idées qui s'appauvrit considérablement. Car le cinéma ne se préoccupe pas que du cinéma. Il se préoccupe de tout ce qui fait la société, ouvre à la réflexion, à la discussion, amène la rencontre avec ce public qui nous manque à hurler. Et à qui l'on manque. Quel gâchis, quelle violence, quelle injustice. Monsieur le Président, une étude allemande menée par l'Institut Hermann Reichel, Université de Berlin, vient de conclure que les salles de cinéma sont 2 fois plus sûres que les supermarchés et 3 fois plus sûres que les voyages en train. Lisez-la. Votre silence et celui de votre gouvernement sont en train de tuer le cinéma français et plus généralement une grande partie de notre culture. Dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et d'une jauge qui permette à chacun d'être en sécurité, réouvrez les salles maintenant.
Oui, bon, ça condamne comme d'habitude l'incompréhension qu'on a devant les mesures très discriminatoires du gouvernement français. Les mesures sanitaires sont forcément nécessaires, mais elles peuvent permettre de faire beaucoup de choses. Et je vais te citer un petit exemple d'incohérence totale, comme quoi ils sont complètement débiles. Aujourd'hui, dans un lycée, on a le droit d'être à 40 dans une salle de classe avec des élèves qui rentrent chez eux, qui voient leurs parents le soir. Pour les conseils de classe, c'est une réunion. Et là, on n'a pas le droit d'être plus de 6. C'est pourtant les mêmes personnes qui participent. Donc les élèves délégués, les parents délégués et les enseignants. Et bizarrement, tous ces gens-là ont le droit d'être ensemble dans une classe, mais pas le droit de faire une réunion, enfin à des moments séparés, pas le droit d'être en réunion. Donc voilà, c'est ces incohérences qui font que aujourd'hui, personne ne comprend plus quoi que ce soit des mesures sanitaires réelles qui seraient utiles, qui seraient efficaces et qui permettraient d'avoir une vie pas forcément normale, mais au moins une vie qui permette de garder cette partie de la culture qui a disparu. On rappelle que c'est pas toute la culture, hein, la culture c'est beaucoup plus large que le cinéma, que les arts vivants, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a aucune raison de fermer un musée ou une salle de cinéma pour des raisons sanitaires.
Donc là, on parle d'une culture collective. Même si au cinéma, tu peux être seul dans ton fauteuil accompagné de personnes, il y a un monde qui t'entoure, des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent rire, qui peuvent s'agacer, se moucher, enfin faire plein de choses. Et donc, tu as un rapport collectif à cette culture. Et je suis d'accord avec toi, quand tu lis, c'est de la culture, mais c'est vrai que la lecture va être plus solitaire, à moins de faire une lecture en groupe et d'avoir ce genre de choses. Mais voilà, c'est cette culture et cette, sans même parler de pratique, hein, simplement ce partage qui aujourd'hui manque cruellement, mais on a surtout un secteur qui est dans une situation économique un peu toute pourrie, qui n'y a surtout pas d'avenir et qui ne sait pas comment redresser la barre. Et pour le cinéma, c'est effectivement des films qui s'entassent, qui passent directement sur des plateformes dont les sorties sont annulées, repoussées, on ne sait plus. Donc c'est de la création effectivement qui se paye.
Et surtout qu'il y a, ça ne justifie pas. En fait, c'est ça le problématique. Il y a des trucs qui justifient qu'on pourrait comprendre. Là, voilà, on sait que... On ne sait pas pourquoi, en fait. Je crois que c'est ça, la réponse. On ne sait pas pourquoi. À part une incompétence généralisée. Mais ça, c'est un autre débat.
Et bien, sur cette question éternelle, mais pourquoi donc comment en sommes-nous arrivés là que nous allons vous laisser à l'apéro, à table, ou je ne suis pas en train de faire du sport, ou de votre... je sais pas. Voilà. On espère quand même que vous vous occupez. On sait que beaucoup d'entre vous travaillent... voilà. Parfois dans des conditions compliquées dans cette période, d'autres sont en attente de pouvoir travailler simplement pour survivre et d'autres parce que votre métier il vous plaît et c'est tant mieux. On vous laisse avec des bandes continues, des autres émissions, tout plein de choses, c'est toujours sur Radio Canus, c'est toujours la plus rebelle des radios et on se dit bye bye, ciao, ciao, à la semaine prochaine.